Chapitre 96, où maître Pierre-Nicolas Barateau étudie le code civil et le code pénal sous la direction de Salvator. Le soulagement apporté dans l'état moral et physique du digne maître Barateau ne fut pas long, car presque aussitôt Salvator reprit. « Dites-moi, continua Salvator, à quelle peine serait condamné un officier public qui aurait soustrait un testament ?» Je ne sais, je ne me souviens pas, dit le notaire, dont les yeux se fermèrent comme pour échapper aux regards ardents du jeune homme. Eh bien, dit Salvator, en étendant la main vers un livre dont la tranche était divisée en 5 couleurs différentes, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. Si vous ne vous en souvenez plus, je vais vous en rafraîchir la mémoire. Oh, dit vivement le notaire, c'est inutile. Je vous demande pardon, dit Salvator, prenant le code, c'est au contraire de toute nécessité. D'ailleurs, ce ne sera pas long. Sans être notaire, j'ai fort étudié ce livre et n'aurai besoin que d'un instant pour y trouver ce que je cherchais. Article 254 du Code pénal, livre 3. Maître Barateau essaya d'arrêter Salvator, car il connaissait aussi bien que lui l'article en question. Mais Salvator écarta la main que le notaire étendait pour lui reprendre le code, et trouvant enfin l'article qu'il cherchait, « Ah, article 254, dit-il, c'est cela, mais écoutez bien. » La recommandation était inutile, le notaire écoutait de reste. Quant à la soustraction, destruction, enlèvement de pièces ou de procédures criminelles ou d'autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront contre le greffier, archiviste, notaire ou autre dépositaire négligent de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et d'une amende de 100 francs à 300 francs. Peu sembla dire maître Barateau, supposons le maximum de la peine, c'est-à-dire 1 an de prison et 300 francs d'amende, j'aurais encore fait là une assez bonne affaire. Salvator lut sur le visage de maître Barateau comme dans un livre tout grand ouvert. « Attendez, attendez, honnête monsieur Barateau, dit-il, il y a encore un article qui concerne le même sujet. » Maître Barateau poussa un soupir. Article 255, continua Salvator, et il lut, « Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnées en l'article précédent sera puni de la réclusion. » Bon, sembla dire le notaire, appelons la peine emprisonnement ou réclusion, c'est exactement bonnet blanc et blanc bonnet, en supposant toutefois que l'on ait retrouvé l'autre testament, ce qui me paraît impossible, attendu que M. de Valgeneuse m'a assuré l'avoir jeté au feu. J'aurais toujours fait une excellente affaire. Et par malheur pour le digne homme, Salvator ne le laissa pas longtemps dans cette quiétude. En effet, comme on va voir, la position n'était pas tout à fait telle que cela faisait maître Barateau. Salvator reprit le second paragraphe de l'article 255. « Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, l'utile, il sera puni des travaux forcés à temps. » La figure du notaire se décomposa si rapidement et si complètement que Salvator eut peur de le voir tomber du haut mal et étendit la main sur la sonnette pour appeler du secours. Mais le notaire l'arrêta. « Qu'allez-vous faire ? » s'écria-t-il. « Je vais envoyer chercher un médecin, vous ne me paraissez pas bien, mon cher monsieur. »« ce n'est rien, dit le notaire. Ne faites pas attention, je suis sujet à des faiblesses d'estomac. J'ai eu tant d'affaires aujourd'hui que je n'ai pas pris le temps de déjeuner. »« Et vous avez eu tort, dit le jeune homme, il est bon de faire des affaires, mais pas au détriment de sa santé. » Et si vous voulez déjeuner, j'attendrai patiemment que vous ayez fini. Nous reprendrons notre conversation après. » Non, non, continuez, dit le notaire. Je suppose que vous n'avez plus grand-chose à me dire. Et remarquez que c'est une observation que je vous fais, et non un reproche. Mais voilà une dizaine de minutes que nous causons pénalité, exactement comme si nous étions, vous, un juge d'instruction et moi un criminel. Abrégeons donc, s'il vous plaît. Cher monsieur Barateau, s'écria Salvator, ce n'est pas moi qui fais traîner la chose en longueur, je suppose. C'est vous qui faites toutes sortes de difficultés. Ah, vous comprenez, dit le notaire, c'est qu'il vous est échappé tout à l'heure un terme dû à mon égard. Je crois avoir dit que vous étiez... Inutile de répéter, interrompit le notaire. Je consens à l'oublier et même à vous faire encore en souvenir de votre père mes offres de service, mais formulez plus raisonnablement votre demande. Vous me couperiez en 4 morceaux que vous ne me feriez pas donner ce que je n'ai pas. Voyons, expliquez-vous catégoriquement. Eh bien, c'est ce que je vais faire, répondit Salvatore, et pour abréger, je passe rapidement de l'article 255 du Code pénal aux articles 1382 et 1383 du Code civil, livre 3, titre 4, chapitre 2. Ne vous impatientez pas, nous y sommes. Le notaire voulut encore interrompre Salvatore, mais celui-ci ne lui laissa pas le temps et reprit. Article 1382, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1383, chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Salvatore releva la tête, et avec lenteur et gravité, le doigt sur les articles, « Voilà à quoi, dit-il, la loi condamne les soustracteurs. Je ne parle de la mort civile, de la perte des droits de citoyen que pour mémoire. C'est un détail dans l'ensemble. Et maintenant que je vous ai rappelé la loi, permettez-moi de vous réitérer ma demande. Voulez-vous être assez bon pour me remettre 500 000 francs d'ici à demain, 9 heures du matin ?» Mais, s'écria le notaire en faisant semblant de se cogner le front contre son bureau, c'est à se briser la tête contre la muraille, c'est à en perdre la raison, si toutefois je ne l'ai pas perdue déjà en ce moment, car le langage que vous me tenez me paraît si insensé qu'il me faut croire à un abominable cauchemar. Rassurez-vous, honnête monsieur Barateau, vous êtes parfaitement réveillé, et je crois que vous en donnez la preuve. » Le notaire ne savait pas encore ce que Salvatore allait lui dire, mais il tremblait instinctivement comme s'il l'eût su. « Une dernière fois, dit le jeune homme, me jurez-vous que vous n'avez ni reçu ni vu le testament du marquis de Valgeneuse ? « Oui, oui, je vous jure devant Dieu et devant les hommes que je n'ai jamais ni reçu ni vu ce testament. »« Eh bien, moi, à mon tour, dit froidement Salvatore en tirant un papier de sa poche, je vous répète, afin que vous ne l'oubliez pas, que vous êtes le plus infâme coquin que j'ai jamais vu. Tenez !» Et Salvatore, arrêtant de la main gauche M. Barateau, qui semblait vouloir pour la seconde fois sauter sur lui, lui montra de la main droite le testament qu'il avait déjà montré, on s'en souvient, à M. Laurédan de Valgeneuse, dans le cabaret de Châtillon, où Jean Taureau et son ami Toussaint Louverture avaient si rudement mené le pauvre gentilhomme. Puis il lut ces lignes écrites sur la couverture. « Ceci est le double de mon testament holographe dont la seconde copie sera déposée entre les mains de M. Pierre-Nicolas Barateau, notaire rue de Varennes à Paris, chacune des copies écrites de ma main et ayant valeur d'original, ce 11 juillet 1821, marquis de Valgeneuse. »« Il y sera !» s'écria le notaire. « Il n'y a pas « et !» C'est vrai, dit Salvatore, mais voici caché sous mon pouce un simple mot qui comble la lacune. Il démasqua le mot et maître Barateau put lire en effet, la sueur de l'agonie au front, le seul mot écrit au-dessous des quelques lignes que nous avons citées, reçu, signé P.N. Barateau. Cette précieuse signature était accompagnée d'un de ces paraphes en nœud d'amour, comme les notaires seuls savent en faire. Maître Barateau essaya de sauter sur le testament, comme avait, en pareille circonstance, tenté de le faire Laurétan de Valgeneuse, mais Salvatore, devinant l'intention et prévenant le mouvement, lui serra si vigoureusement le bras que celui-ci dit d'une voix suppliante « Ah, monsieur Conrad, vous me brisez le bras !» « Misérable !» fit Salvatore, le lâchant avec dégoût et remettant le papier dans sa poche. « Jure donc devant Dieu et devant les hommes que tu n'as ni vu ni reçu le testament de M. de Valgeneuse. » Puis, se reculant, en croisant les bras, y regardant, « En vérité, dit-il, j'admire jusqu'où peut aller l'engourdissement de la conscience humaine. J'ai là devant moi un misérable qui devait croire que, par suite de son crime, un malheureux jeune homme de 25 à 26 ans s'était brûlé la cervelle, et ce misérable avait suivi son convoi, vivait sans remords, acceptait la considération publique qui faisait fausse route en rentrant chez lui. Il vivait de la vie des autres hommes, avait une femme, des enfants, des amis, riait, mangeait, dormait, sans se dire que ce n'était pas dans un cabinet élégant, en face d'un bureau, façon de boule, qu'il devait être, mais au pilori, mais au bagne, mais aux galères. En vérité, la société qui nous offre de pareilles monstruosités est bien mal faite et a besoin de cruelles réformes. » Puis, changeant de ton, « Allons, dit-il, en fronçant énergiquement le sourcil, finissons-en. Mon père m'a laissé par testament la totalité de ses biens meubles et immeubles. Vous me devez donc, à titre de restitution et de réparation, sans préjudice des peines portées au code pénal, la totalité des biens de mon père, estimée dans le testament à 4 millions. » Plus l'intérêt de ces 4 millions pendant 7 ans, soit 1400 000 francs, non compris les intérêts des intérêts et les dommages auxquels me donnent droit les articles 1382 et 1383. Vous me devez donc, sans parler quant à présent de ces dommages, clairement et nettement à cette heure, une somme de 5 400 000 francs. Vous voyez donc que ma demande est plus raisonnable et plus modeste que vous ne dites, puisque ce que j'exige pour le moment ne constitue pas même le dixième de ma fortune. Remettez-vous donc et terminons au plus tôt cette affaire. » Le notaire semblait n'avoir rien entendu. Les yeux fixés à terre, la tête penchée sur la poitrine, les bras roidis et collés le long du corps comme des bras de mannequin, abattus, atterrés, anéantis, on eût dit le dernier coupable en présence de l'archange punisseur du jugement dernier. Salvatore lui frappa sur l'épaule pour le tirer de cet engourdissement et lui dit « Eh bien, à quoi songeons-nous ? » Le notaire tressaillit comme s'il eût senti la main du gendarme de la cour d'assises. Il leva sur son interlocuteur des yeux effarés, hagards, insensés. Puis il laissa retomber sa tête sur sa poitrine et reprit son attitude morne et désespérée. « Voilà, maître escroc, dit Salvatore, auquel la vue de cet homme n'inspirait que du dégoût. « Voilà, maître escroc, parlons un peu, mais parlons vite et bien. Je vous ai dit et je vous répète qu'il me faut 500 000 francs pour demain à 9 heures du matin. » « Mais c'est impossible !» balbutia tout bas le notaire, sans relever la tête de peur de rencontrer le regard du jeune homme. « C'est votre dernier mot ?» demanda Salvatore. « Dès qu'il s'agit de prendre, un homme comme vous ne doit pas être embarrassé. Il me les faut. »« Je vous jure !» essaya de dire le notaire. « Ah non, encore un serment !» fit Salvatore avec un sourire de suprême mépris. « C'est le troisième depuis une demi-heure, et je ne crois pas plus à celui-là qu'aux deux premiers. » « Une dernière fois, entendez-vous, c'est la dernière, voulez-vous ou ne voulez-vous pas me donner les 500 000 francs que je vous demande ? Mais alors, accordez-moi un mois pour les trouver. » « Je vous ai dit que c'était demain à 9 heures qu'il me les fallait, j'ai dit à 9 heures, pas à 10, ce serait trop tard. Mais seulement une semaine. Pas une heure, vous dis-je. « Alors c'est impossible !» s'écria le notaire d'une voix désespérée. « En ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire, » répliqua Salvatore en se dirigeant vers la porte. En voyant le jeune homme prendre cette direction, le notaire retrouva toutes ses forces et bondit entre la porte et lui. « Pour l'amour de Dieu, monsieur de Valgeneuse, ne me déshonorez pas, » dit-il d'une voix suppliante. Mais en détournant la tête, comme s'il répugnait à le voir, Salvatore l'écarta du bras et continua son chemin. Le notaire le gagna de vitesse une seconde fois et, appuyant la main sur le bouton de la serrure, « Monsieur Conrad, s'écria-t-il, au nom de votre père qui avait de l'amitié pour moi, épargnez-moi le déshonneur !» Il prononça ces paroles d'une voix si faible qu'à peine pouvait-on les entendre. Salvatore fut inébranlable. « Voyons, laissez-moi passer, dit-il. Encore un mot, dit le notaire, c'est non seulement la mort civile, mais la mort réelle qui va entrer par cette porte, si vous l'ouvrez avec de si terribles intentions. Je vous préviens que non seulement je ne survivrai pas à ma honte, mais encore que je ne l'attendrai pas. Derrière vous, je me fais sauter la cervelle. Vous, dit Salvator, le regardant en face d'un air de défi, c'est la seule bonne action que vous pourriez faire, et c'est pour cela que vous ne la ferez point. Je me tuerai, dit le notaire, et en mourant, j'emporterai votre fortune avec moi, tandis qu'en accordant du temps. Vous êtes un niais, répondit Salvator. Est-ce que mon cousin, Loridan de Valgeneuse, ne me répond pas de vous, comme vous me répondez de lui? Allons, arrière, vous dis-je. Le notaire se laissa glisser à ses pieds, lui prit en sanglotant les genoux, les couvrit de larmes en criant « Pitié, mon bon monsieur Conrad, pitié !»« Arrête, misérable !» dit le jeune homme en le repoussant du pied, et il fit encore un pas vers la porte. « Eh bien, je consens à tout ce que vous voudrez !» s'écria le notaire, en saisissant la veste du commissionnaire pour l'empêcher de sortir. Il était temps, Salvator venait de mettre la main sur le bouton de la porte. « Enfin, ce n'est pas sans peine, » dit Salvator, en revenant prendre sa place près de la cheminée, tandis que le notaire reprenait la sienne derrière le bureau. Une fois assis, le notaire poussa un soupir et parut disposé à retomber dans son apathie. Ce n'était point l'affaire de Salvator. « Or ça, dépêchons-nous, dit-il, c'est déjà bien du temps perdu dans une affaire pareille. Avez-vous la somme ou les valeurs représentatives de la somme chez vous ?»« J'ai une centaine de mille francs, dit le notaire, en écus, or et billets. » Ouvrant sa caisse, il étala les 100 000 francs sur le bureau. « Et pour les 4 autres 100 000 francs ?» demanda Salvator. « J'ai ici pour 800 000 francs à peu près de titres, coupons de rente, obligations, actions, etc., etc. » répondit maître Barateau. « Bien, vous avez toute la journée pour faire argent de cela. Seulement, je vous préviens que j'ai besoin de cet argent en billets de banque de 1 000 ou de 5 000 francs, et non en numéraire. Ce sera comme vous voudrez. Alors, donnez-moi le tout en billets de 1 000 francs. Soit. » « Vous diviserez les 500 000 francs en 10 liasses de 50 000 francs chacune. »« Ce sera fait ainsi que vous le désirez, » dit le notaire. « Bien, il vous faut cet argent. Demain, avant 9 heures, je vous l'ai dit. Il sera chez vous ce soir. Ce sera encore mieux. Où faudra-t-il vous porter cela ?»« Rue Macon, numéro 4. » Voulez-vous me dire sous quel nom je dois vous demander, car je suppose que vous ne portez pas le vôtre, puisque l'on vous croit mort. Vous demanderez le commissionnaire de la rue aux Fers, monsieur Salvator. Monsieur, dit solennellement le notaire, je vous promets que ce soir, à 9 heures, je serai chez vous. Oh, je n'en doute pas, répondit Salvator. Puis-je espérer, mon bon monsieur Conrad, qu'après avoir exécuté ponctuellement vos ordres, je n'aurai plus rien à craindre de vous? Je réglerai ma conduite sur la vôtre, monsieur. Selon que vous ferez, je ferai moi-même. Pour le moment, je compte vous laisser en repos. Ma fortune est trop bien placée chez vous pour que je cherche un autre placement. C'est donc 4 900 000 francs que je vous laisse provisoirement entre les mains. « Usez-en si cela vous plaît, mais n'en abusez pas. »« Monsieur le marquis, vous me sauvez la vie, » dit maître Barateau, les yeux baignés des larmes de la joie et de la reconnaissance. « Provisoirement, » dit Salvator, et il quitta ce cabinet où son cœur, depuis qu'il y était entré, s'était soulevé tant de fois de honte et de dégoût.